Je vais donc présenter aujourd'hui Xavier Gaulier, qui va nous parler des nouveaux âges de la vie, dans le cadre de ce partenariat que nous avons avec l'Université de tous les savoirs, parce que nous nous sentons proches de l'Université de tous les savoirs, non pas par cet éventail, mais quand même par l'intérêt que nous avons à la fois pour les sciences sociales et pour les sciences dures, pour cette diversité, cette ouverture, et aussi pour son exigence que nous pensons partager. Alors, Xavier Gaulier va donc parler des nouveaux âges de la vie. C'est un sujet qu'il a exploré depuis 20 ans, mais il me pardonnera de dire que c'est un peu par hasard qu'il a été amené à ce sujet. Après avoir d'abord fait longtemps de la philosophie et puis un passage d'un an pour étudier la sociologie à l'université de Chicago en 1966, il avait travaillé après sur l'aménagement régional et urbain pendant plusieurs années, et il est entré dans ce sujet des âges de la vie par un double projet, l'un qui portait sur les politiques des municipalités en faveur des personnes âgées auxquelles s'intéressait à l'époque le commissariat au plan, et l'autre par l'arrivée, le démarrage des premières pré-retraites, celle de la sidérurgie au milieu des années 75, au milieu des années 70, pardon. Et c'est une politique qui a fait florès depuis, puisque maintenant c'est utilisé par beaucoup d'entreprises, non pas seulement celles qui ont des difficultés et qui doivent réduire leur, comme on dit, sureffectif, mais c'est devenu une espèce d'instrument pour gérer la pyramide des âges des entreprises, ce qui nous amène directement au sujet d'aujourd'hui. Et c'est ce problème des pré-retraites qui avait amené Xavier Gaulier à écrire son livre qui s'appelle « L'avenir à reculons » sur les pré-retraites dans la sidérurgie et le textile en 1985. De là, vous voyez le lien que dans son travail, il y a toujours eu entre les âges et la politique de l'emploi et ses transformations, ce qui est, je crois, une de ses originalités de son travail par rapport à d'autres gens qui se sont penchés sur les retraites ou sur la vieillesse. C'est comment ça transforme la situation des individus et les perceptions qu'on en a, et ce qu'il a déjà montré dans la deuxième carrière qui a été publiée en 1988 et dans le rapport au ministère du Travail qui a été fait en mars 90 sur la modernisation et la gestion des âges, salariés âgés et emploi, vous voyez le rapport. Il s'est intéressé donc au vieillissement social, en même temps toujours qu'aux pratiques des entreprises, réfléchies dans quelques cas, ou je veux dire des pratiques, où non réfléchi pour la majorité, en même temps qu'au passage à la retraite, et plus largement à la transformation générale des âges, à la fois pour la société et pour chacun des individus, parce qu'on est sorti de ces trois temps classiques, la jeunesse, on fait des études, on a des loisirs, la vie professionnelle et aussi la vie familiale, âge de la maturité, et la vieillesse. D'abord, s'est introduit un quatrième temps, celui du grand âge, le quatrième âge, comme on dit, et surtout, il y a des âges brouillés, comme la jeunesse et l'entrée. On n'entre plus directement d'un seul coup de rupture au passage études-travail, mais les deux tendent à se recouvrir. Et le passage emploi-retraite est tout aussi indécis. Il y a des emplois jeunes, et je reprendrai peut-être l'expression de Xavier Gaulier, les emplois vieux. Et donc, c'est tout ça qui est la matière de son dernier livre, Les temps de la vie, qui a été publié l'an dernier aux éditions Esprit, et du thème d'aujourd'hui, à la fois le parcours des individus et la dynamique de ces différentes périodes, les relations qu'elles ont entre elles, comment tout ça se transforme, à la fois donc par la longévité plus grande, par les transformations de la vie professionnelle, de la vie familiale, les échanges entre générations, où certaines, justement, ont des positions particulières, difficiles, jouent un rôle critique. Voilà, il va évoquer tout ça, toutes les questions que ça pose pour les politiques sociales, et comment la situation peut évoluer à l'avenir. Mais je ne veux pas lui prendre davantage de temps. Xavier Gaulier, c'est à toi.
Bon, bonjour à tous d'abord, et merci Guy Herzlich de cette longue présentation. Donc, nous allons parler aujourd'hui des âges de la vie, et apparemment, c'est une réalité bien connue parce que chacun d'entre nous a l'expérience d'abord de son propre âge, et puis qu'autour de lui, il voit bien les différents âges tels qu'ils se transforment. Ceci dit, la chose, je crois, est en fait un peu plus compliquée. Quand on regarde au niveau des individus, au niveau des familles, au niveau des entreprises, au niveau de la vie politique aussi, on s'aperçoit que très souvent, ce qui reste dans les esprits et ce qui, en général, aide aux décisions, c'est toujours le vieux modèle ancien. Il y a la jeunesse, enfin l'adolescence, et puis il y a le vieux adulte, et puis il y a la vieillesse. Alors qu'en fait, tout ceci est en pleine transformation, et mon point de départ sera de dire que justement, nous sommes dans une situation où le brouillage des âges, comme on dit, est très généralisé. Et j'en prendrai pour commencer un seul exemple. Quand on voit les études qui sont consacrées en France actuellement aux âges, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ceux qui parlent de la jeunesse, eh bien maintenant, ils parlent de la post-adolescence, par exemple, d'une adolescence interminable, de l'entrée dans la vie, de pré-adultes, de jeunes adultes. Et puis ceux qui parlent des retraités, là aussi, les mots sont extrêmement divers et donc montrent bien que nous sommes dans une situation pas claire et brouillée. Retraités, personnes âgées, troisième âge, quatrième âge, pré-retraités, seniors, aînés, anciens. Et puis, même chose pour les adultes. Si je relevais les noms qu'on a vus dans différentes publications ou livres récents, je verrais nouvelle maturité, première et deuxième maturité, milieu de la vie, maturescence, deuxième carrière, etc. Donc, je crois qu'on a, point de départ de ce que je voudrais dire, un brouillage très grand des générations, des âges et des générations qui ne correspondent pas simplement aux trois âges classiques, et qui en plus est compliqué parce que nous sommes dans une société où les attitudes vis-à-vis des âges sont extrêmement passionnelles. Alors passionnelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il y a massivement une peur et un déni de tout ce qui touche à la vieillesse et à la mort. Que parallèlement, nous vivons dans une société obsédée par le mythe de la jeunesse. Et je dis bien que c'est un mythe parce que, en réalité, ça n'est pas par rapport à la situation concrète des jeunes actuellement qui n'est pas forcément enviable. C'est un idéal abstrait qui vaut pour tous les âges, ce qu'on appelle le jeunisme. Et puis l'adulte, finalement, on le voit beaucoup, on le sait de moins en moins ce que c'est, puisqu'il a une période de vie de plus en plus courte, puisque la jeunesse, je vais en reparler longuement, s'allonge beaucoup, que la vieillesse commence de plus en plus tôt, au moins dans les entreprises, et donc on a là un âge incertain, et que certains psychologues expliquent et analysent cette période de la vie adulte comme une période qu'ils qualifient d'immaturité et d'infantilisation. Alors, je voudrais aujourd'hui aborder toutes ces questions de façon globale et évolutive. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle des âges, en général, on prend simplement un âge. Alors, on parle de la jeunesse ou on parle de la vieillesse. Je voudrais essayer, c'est plus compliqué, mais prendre un peu l'ensemble des âges aujourd'hui, parce que finalement, ces âges ne sont pas indépendants les uns des autres. Et pour expliquer un, ça ne peut se comprendre que par rapport aux autres. Et qu'à trop se spécialiser, on risque bien de laisser échapper la réalité. Deuxième perspective, ce serait une perspective évolutive. Ce que je veux dire, c'est que continuellement, et je vais vous demander de faire l'effort, de vous rappeler de ce qu'étaient les âges il y a 20, 30 ou 40 ans en France, dans ce que j'appelle la période des 30 glorieuses, la période de croissance après la guerre, comment elles évoluent maintenant, et nous poser des questions vers l'avenir, vers quoi nous allons. Alors, dans ce contexte, je voudrais, tout le long de mon exposé, garder deux questions fondamentales. Premièrement, que devient le parcours des âges? Alors, le parcours des âges, ça veut dire, c'est des problèmes individuels, quelles sont les étapes par lesquelles les uns et les autres nous passons, est-ce qu'elles deviennent de plus en plus rigides, est-ce qu'elles sont de plus en plus souples au contraire, etc. Deuxième question, que devient la dynamique des âges? La dynamique des âges, c'est autre chose, ce sont les rapports entre les différents âges, la jeunesse, la vieillesse, les adultes, etc. Et comment se font ces rapports à l'heure actuelle? Est-ce que c'est des conflits? Est-ce que c'est de la concurrence ou d'autres relations? Et est-ce que, où
où se gèrent, où, comment évoluent les égalités et les inégalités entre les âges. Donc, à travers ces deux optiques que je vais suivre, la question porte sur notre société actuelle, c'est-à-dire cette société qu'on appelle souvent post-industrielle, qui est caractérisée par beaucoup de flexibilité, beaucoup de diversification, d'individualisation. Peut-on encore parler d'âge de la vie ou de nouveaux âges de la vie? Ou bien est-ce qu'on va vers des âges de plus en plus mobiles, des temps mobiles, des cycles de vie mobiles et flexibles? Et puis, à partir de ceci, nous poserons des questions sur l'avenir. Et là, je terminerai par un peu trois scénarios, trois questions pour l'avenir. Est-ce que nous allons vers un scénario des âges et des générations qui serait un peu comme il a été pendant les Trente Glorieuses, avec des âges fixes, rigides? Deuxièmement, est-ce qu'au contraire, pour toutes sortes de raisons que j'expliquerai, on va vers une société où l'âge sera de moins en moins important, donc une société sans âge, donc c'est la flexibilité par derrière? Et troisièmement, est-ce que, comme le disent certains, nous n'allons pas plutôt vers une société où les conflits entre les âges et les générations seront très fortes? Et vous savez que certains ont fait toutes sortes de réflexions sur l'idée que le conflit des âges et des générations au XXIe siècle serait central dans nos sociétés et remplacerait ce qu'a été la lutte des classes dans le XIXe et une partie du XXe siècle. Je dois encore un mot d'introduction pour dire que, pour que vous ne soyez pas surpris, c'est que je vais prendre une analyse surtout sociologique, c'est-à-dire en prenant bien sûr des résultats d'études démographiques, économiques, psychologiques, mais en restant dans une perspective plutôt sociologique. Alors je ne vais pas vous expliquer ce que serait qu'une perspective sociologique, ce serait trop compliqué, trop long surtout. Je voudrais simplement vous dire une phrase que je trouve résume bien ce que je voudrais dire, qui est de Pierre Bourdieu, un de nos grands sociologues, qui disait « Qu'est-ce que c'est qu'un âge pour un sociologue ? C'est une donnée biologique, socialement manipulée et socialement manipulable. » Donc l'âge, c'est une construction sociale, si vous voulez, qui est en même temps une série de rapports sociaux entre les différents âges, et jamais séparés, et jamais à ne séparer, des rapports sociaux entre les groupes sociaux et les sexes, bien sûr. Donc il y a de nombreux débats sur toutes ces questions, je ferai allusion à l'un ou l'autre, et puis dans mon texte qui est un peu plus long que ce que je dirais, vous en trouverez d'autres aussi, mais je ne ferai pas trop de références pendant mon exposé pour ne pas m'alourdir, mais elles sont dans le texte écrit. Donc, compte tenu de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que mon hypothèse, c'est que nous sommes dans une situation où les âges ont un caractère extrêmement évolutif et diversifié, donc je ne vais pas essayer de faire une synthèse qui dirait exactement qu'est-ce qui se passe pour les âges, ça me semblerait impossible. Par contre, je vais, de façon beaucoup plus modeste, prendre quatre problèmes et montrer comment, à l'intérieur de chacun de ces problèmes, la définition des âges et les rapports des âges se transforment. Mes quatre problèmes sont d'abord âge et longévité, deuxièmement âge et vie professionnelle, troisièmement âge et vie familiale, et quatrièmement, quelles sont les nouvelles périodes critiques dans le parcours des âges. Donc, mon premier point, c'est âge et longévité. On a parlé beaucoup, y compris récemment dans un livre qui vient de paraître, de ce qu'on appelle la révolution de la longévité. Et je crois que c'est une réalité tout à fait importante. Mais je crois que tout de suite, il faut ajouter que cette longévité, elle est en fait, dans notre société, un tabou social. Et pourquoi ? Parce que, aussi bien au niveau des individus qu'au niveau des disciplines intellectuelles, qu'au niveau des décisions politiques, on n'en tire pas les conséquences pour l'organisation des parcours des âges. Donc la longévité, c'est quoi ? C'est tout simplement que nous avons plus de temps pour vivre. Comment occupons-nous ce temps qui s'allonge? Est-ce que, comme certains l'ont dit, c'est une nouvelle expérience du temps? La longévité, donc je rappelle d'abord quelques chiffres, c'est une des formes du vieillissement de la population, elle augmente considérablement, en deux siècles elle est passée de 36 ans en moyenne à 78 ans, actuellement pour les femmes, en moyenne, elle est de 82 ans en France et de 74 ans pour les hommes. Elle augmente de 3 mois en moyenne tous les ans, donc c'est extrêmement important, même s'il y a des égalités selon les groupes sociaux et les sexes, je viens de le dire. Et puis, pour prendre un autre chiffre, les centenaires augmentent dans notre société. En France, ils étaient 200 en 1050. Ils sont actuellement 8000 et ils seront autour de 18000 en 2010, nous disent les démographes. Et cet allongement de l'espérance de vie, il se fait sans augmentation de la durée des incapacités. Je pourrais parler longuement là-dessus, mais il y a toutes sortes d'études qui ont bien montré que c'était une espérance de vie qui augmente sans incapacité. Alors, les experts réfléchissent sur toutes ces questions-là et nous annoncent que l'espérance de vie moyenne devrait continuer à augmenter dans un pays comme le nôtre, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et les biologistes, eux, s'intéressent en profondeur sur la possibilité de dépasser ce qui a toujours été considéré comme la durée limite de l'espèce humaine, c'est-à-dire 120 ans, 125 ans. Mais que leur réflexion est sur ce point. Donc une société, ce que j'appelle une société longévitale, qui en même temps est une société multigénérationnelle. Et c'est évidemment une conséquence immédiate, c'est-à-dire nous sommes dans une société où le nombre des enfants par famille diminue, autrement dit où les fratries sont plus petites, mais où le nombre des générations coexistantes en même temps augmente. Et on voit de plus en plus, non seulement des familles de 3 générations qui vivent en même temps, mais de 4 générations et même de 5 générations. Il y a une étude qui a commencé récemment pour essayer de recenser le nombre des familles à 5 générations en France. Et au bout de 6 mois de recherche, ils sont déjà à 2000 familles où il y a 5 générations coexistantes. Donc, notre point de départ, c'est une société longévitale et une société multigénérationnelle. Face à cela, on aurait pu croire que ce gain d'espérance de vie serait réparti équilibrement, de façon équilibrée, sur l'ensemble des âges de la vie. Or, il n'en est rien, parce que nous avons au même moment un double mouvement, c'est-à-dire à la fois une espérance de vie qui augmente, mais en même temps une espérance de vie professionnelle qui diminue de plus en plus. Là aussi, un ou deux chiffres. Au début du XXe siècle, 70% de la durée de vie était consacré au travail, alors qu'il ne représentera bientôt plus que 15 à 20% de l'ensemble de la vie, compte tenu en partie de cette espérance de vie. Donc, dans quelques années, 40 000 heures au début du XXIe siècle contre 70 000 heures encore en 1980. Et troisième point, que par ailleurs, parallèlement, la plus grande partie du temps gagné par l'espérance de vie, il a été reporté sur la retraite. Et dans les 30 dernières années, la retraite a augmenté de 10 ans. 5 ans grâce à l'espérance de vie, plus longue, et 5 ans parce que l'âge moyen du départ de la vie professionnelle, de la sortie de la vie professionnelle, est plus précoce. Donc, on voit bien tout ce qui se passe dans l'organisation du cycle de vie avec cette idée de longévité, de raccourcissement de la vie professionnelle et en même temps d'allongement de la vie de retraite. Donc, première conséquence, c'est que nous sommes de plus en plus, au-delà du problème du chômage, dans une société d'inactifs. Ça veut dire aussi que ce cycle de vie, ce parcours de vie, ce parcours des âges, il est complètement transformé et qu'il y a une plus en plus grande distinction entre ce qu'on peut appeler la première partie de l'existence, c'est-à-dire celle où il y a la formation, le travail, la fondation de la famille, qui est de plus en plus surchargée, et puis la deuxième partie de l'existence, qui, une fois terminées donc les activités de production et de reproduction, est à inventer, puisque ces phénomènes sont nouveaux, et donc que la société ne nous propose pas des modèles pour vivre toute cette deuxième partie de l'existence. Je rappelle, chose qu'on oublie souvent, c'est qu'à 50 ans, une femme est au milieu de sa vie adulte, compte tenu de son espérance de vie, de 20 à 50 ans et de 50 à 80. Qu'un démographe vient de faire une étude, la statistique aussi, sur le cycle de vie féminin, c'est en gros 22 années de formation, 35 années d'activité et une longue retraite de 27 années. Hein ? Ou pour dire les choses autrement, à 60 ans, l'espérance de vie des hommes est aujourd'hui de 20 ans et celle des femmes de 24 ans. Et en 2040, elle sera respectivement de 25 et 30 ans. Donc on voit bien une des innovations fortes de notre société à l'heure actuelle, c'est le décalage ou les déséquilibres entre cette première partie de l'existence et cette deuxième partie de l'existence. Alors, pour faire face à cette situation, qu'est-ce qu'on a vu se produire dans la société actuelle? D'abord, dans les années 60, on a vu, ce que vous connaissez tous, l'émergence du troisième âge. Le troisième âge, ça a été au fond quoi? Ça a été l'invention d'une nouvelle étape dans l'existence et qui a été rendue possible pour trois raisons. D'abord, parce qu'il y a eu cet allongement de l'espérance de vie et cette espérance de vie sans incapacité. Deuxièmement, parce qu'il y a eu une élévation du niveau des revenus des retraités. Et troisièmement, ce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a eu la découverte de nouvelles valeurs pour cet âge de la vie, qui n'était non plus la vieillesse au sens traditionnel du terme, mais c'était la découverte de l'autonomie des personnes, de la possibilité d'un développement de soi réel, y compris à cet âge-là, et les problèmes d'insertion sociale pour cet âge de personnes qui sont à la retraite. Mais ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, cette notion de troisième âge ne suffit plus à expliquer ou à rendre compte tout ce que je viens de dire sur la deuxième partie de l'existence, qui souvent, en gros, va de 50 à 90 ans, 90 ans à cause de l'espérance de vie, et 50 ans parce que, dans l'entreprise, c'est l'âge auquel, j'y reviendrai tout à l'heure, on vous fait comprendre que vous commencez déjà à être vieux et qu'il va falloir songer, dans les quelques années qui suivent, à partir. Donc, on voit bien comment un tel aménagement du cycle de vie à partir de cette notion de longévité pose de nombreuses questions à la société sur la répartition des temps sociaux tout au long de l'existence. Par temps sociaux, j'entends la répartition du temps de travail, du temps familial, du temps social, des loisirs, etc. Et il faut bien dire qu'actuellement, toutes les décisions qu'on prend ne vont pas vers un nouvel équilibre de ces problèmes posés par la longévité. Je n'en prends qu'un exemple. On peut à la fois vouloir la réduction du temps de travail avec les 35 heures, mais en même temps, on continue imperturbablement à faire des cessations anticipées d'activité. De même, on parle des 35 heures en termes de réduction du temps de travail, mais il y a peu de réflexion sur ce que ça veut dire en termes de réorganisation du temps libre par ailleurs, etc. Donc, un problème de fond sur l'équilibre de ces temps sociaux en fonction des âges et du cycle de vie. Deuxième point que je voudrais donc signaler, c'est âge et vie professionnelle. La condition salariale que nous connaissons actuellement en France a été analysée de nombreuses fois. On a parlé de la crise de la question sociale, de la mutation, de la métamorphose de la condition salariale. On a aussi élaboré des interprétations beaucoup plus générales sur la fin du salariat, sur la fin du travail, sur l'émergence d'une société du temps libre, etc. Mais ce qui est caractéristique de toutes ces analyses, c'est que jamais elles n'ont pris en compte le problème de l'évolution des âges et des générations tout au long du cycle de vie. Alors, comment se pose la question des âges par rapport à l'emploi dans la France actuelle? En fait, depuis une trentaine d'années, la France a vécu ses problèmes d'emploi parce qu'on a appelé, même le ministère du Travail a appelé, un compromis social entre les différents âges. Ça veut dire que l'âge privilégié pour l'emploi a été les 30-50 ans, c'est-à-dire les âges intermédiaires, et par ailleurs, au contraire, on a réservé aux jeunes et aux salariés âgés le chômage, la précarité et un fort taux d'inactivité. Donc, on peut dire d'une certaine façon, sans craindre de se tromper, que la France, par rapport à d'autres pays, elle a les étudiants les plus âgés et les retraités les plus jeunes. Donc, vous voyez tous les problèmes déjà que ça pose pour notre sujet. Alors, là aussi, quelques chiffres. Le taux d'activité des hommes en France de 55 à 64 ans est en France le plus bas de tous les pays. Il est de 44%, alors qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis, il est de 20 points de plus, 64% et 66%, et qu'en Suède et au Japon, il est de 40 points supérieur. Que, par ailleurs, si on compare la France aux États-Unis, on s'aperçoit, et le chiffre est quand même extrêmement surprenant, je pense pour vous, que le taux de chômage, le taux d'activité est plus faible aux États-Unis qu'en France pour les gens entre 30 et 50 ans. Ce qui montre bien que tout le problème de l'emploi en France, la plus grande partie, elle porte sur les jeunes et les âgés. Si je prends un autre chiffre, la sortie de la vie professionnelle est de plus en plus précoce, de 62 ans en 1969 à 58 ans maintenant, et l'entrée dans cette même vie professionnelle, elle est de plus en plus tardive. En 1969, c'était à 18 ans, tandis que maintenant, en 1997, c'est à 22 ans. Alors, de fait, on connaît aussi, par ailleurs, tous les problèmes liés au chômage et à l'inactivité des jeunes. Je voudrais insister sur un autre point qui est moins connu et qui a bien mis en valeur une étude récente et excellente de Christian Baudelot, qui consiste à montrer que non seulement il y a ces problèmes d'emploi et de précarité pour les jeunes, mais que quand ils sont au travail, on a pris des jeunes à 30 ans qui sont au travail, eh bien, les écarts de salaire entre les jeunes qui ont un emploi à 30 ans et les salariés âgés qui ont autour de 45 ans, il a considérablement augmenté pendant les 30 dernières années, si bien qu'il était simplement de 7% il y a 30 ans, tandis que maintenant, il est de 24% entre les jeunes et les gens âgés. Donc, on voit bien comment, en réalité, tout s'est passé comme si la crise avait favorisé les gens âgés. Mais en même temps, ces salaires élevés pour les gens âgés autour de 40, 45 et plus, finalement, ça a été une des raisons qui aussi ont provoqué, en retour, le développement des cessations anticipées d'activité, puisque les entreprises, à tort ou à raison, mais ce n'est pas notre problème aujourd'hui, considéraient que le coût des gens âgés était trop élevé. Donc, on voit bien que quand on réfléchit sur ces questions d'inégalité, il y a à la fois des inégalités entre les différents âges et que le problème est plus compliqué que ce qu'on dit souvent. Alors, avec cette gestion des âges dans la vie professionnelle, on voit bien que le parcours des âges est complètement transformé et déstabilisé. Non seulement parce que le modèle du plein emploi n'existe plus comme pendant les Trente Glorieuses, mais parce que le déroulement des carrières est de moins en moins linéaire, de moins en moins continu, de moins en moins à l'ancienneté, et qu'il n'y a plus, comme il y avait dans les années 60, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais dans les années 60, à 24 ans, tous les jeunes avaient quitté leur famille d'origine, avaient un emploi stable et étaient mariés. Alors que là, nous sommes dans une situation complètement différente, comme vous le savez, et j'y reviendrai. Et de même, à cette époque-là, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait, la retraite était définie par la coïncidence entre trois choses, c'est-à-dire que vous partiez en retraite, ben ça semblait évident à ce moment-là, c'était l'arrêt du travail, mais là, avec les pré-retraites, c'est différent, que deuxièmement, la retraite, c'était d'avoir une pension, et troisièmement, que c'était le début, c'était lié au début des handicaps de la vieillesse. Ceci formait, c'était la définition même de la vieillesse, de la retraite. Alors que maintenant, on voit bien qu'on a un modèle générationnel dans l'emploi qui tend à privilégier une forte productivité liée à des carrières courtes, mais intensives et sélectives. Alors que jeunes et âgés, eux, ont à faire face à une décennie de flexibilité où se mélangent alors là des statuts, des activités, des horaires, des revenus divers, avec des allers-retours entre l'emploi, la famille, l'autonomie personnelle, avec ou sans cumul d'expérience. Donc, une culture de l'aléatoire au début et à la fin de l'existence. Et là, les coïncidences dont je parlais à l'instant n'existent plus, ni pour les uns ni pour les autres. C'est tout à fait clair pour les retraites, puisque la retraite commence avant la retraite, je l'ai dit, par les pré-retraites. La pension est de plus en plus tardive et moins élevée, et que les handicaps de la vieillesse commencent beaucoup plus tard, au grand âge, pas du tout au moment de la retraite. Donc, on peut dire que, et à partir de cela, on pourrait réfléchir sur la crise de l'emploi. On a souvent dit que la crise de l'emploi cachait par derrière une crise du travail. Je crois que c'est vrai. Mais je voudrais ajouter, dans le contexte de nos réflexions, que par derrière encore cette crise du travail, il y a une crise de l'activité comme telle. L'activité comme telle, pour les individus, elle ne peut plus en aucune façon être définie uniquement par le seul travail salarié classique. Car en fait, les activités sont multiples, non seulement professionnelles, mais pour les jeunes qui sont dans cette situation de décennie de la précarité dont j'ai parlé, pour les pré-retraités, pour les retraités. Et donc, il y a une question de fond et de définition sur qu'est-ce que l'activité dans une société post-industrielle comme la nôtre. Alors, la nécessité de rompre avec ce modèle générationnel de l'emploi est en général admise. Mais avec des nuances, elle est admise pour les jeunes. Tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il faudrait améliorer la situation des jeunes. Par contre, l'opinion est beaucoup plus réservée sur le fait de modifier les fins de carrière, puisque l'image de la pré-retraite et de la retraite, pour beaucoup, pour ceux qui sont réellement en système de pré-retraite, pas ceux qui sont en chômage de longue durée après 50 ans, mais qui ont des avantages donc financiers, sont en fait très pour garder ce départ précoce. Et donc là, on voit bien comment il y a un problème énorme pour la société. Si maintenant je prends l'autre aspect de la vie professionnelle, c'est l'aspect retraite. Qu'est-ce que devient le risque vieillesse, toujours en fonction de nos deux problèmes, c'est-à-dire à la fois la dynamique des âges, c'est-à-dire les rapports entre les différents âges par la retraite, et puis, deuxièmement, dans la gestion du cycle de vie. D'abord, remarquons que la situation des retraités dans la société a complètement été transformée par rapport aux années 50 ou 60. Vous vous souvenez probablement qu'à ce moment-là, la vieillesse signifiait pour beaucoup pauvreté, solitude, et que alors que maintenant le niveau moyen du revenu des retraités est au même niveau que celui des actifs. Donc là, nous sommes dans une situation complètement transformée par rapport à il y a 30 ans, où il y a rééquilibrage du niveau de vie entre les âges actifs et les âges inactifs. Et on dit maintenant, on parle bien maintenant, l'âge d'or des retraites. Alors, je m'entends, bien sûr, l'âge d'or des retraites actuellement, et qui commence déjà à s'effilocher, parce que le problème des retraites, ça n'est pas tellement le problème d'aujourd'hui, c'est le problème de l'avenir. Et l'avenir, pourquoi ? Pour les raisons que vous connaissez, c'est-à-dire compte tenu de la situation démographique, c'est-à-dire au moins deux choses, c'est-à-dire l'arrivée des générations nombreuses du baby-boom en 2005, qui vont passer à la retraite, et puis, comme je l'ai dit, l'augmentation constante de la longévité et de l'allongement de la durée de la retraite. Et puis en même temps, liées à des raisons économiques, qui sont l'emploi, les carrières, les salaires. Donc, en termes de dynamique des âges, de rapport entre les âges, est-ce que cet avenir, les questions de fond sont celles-ci. Est-ce que c'est la fin de la solidarité des générations ? Et ce qu'on appelle la solidarité des générations, comme vous le savez, c'est le fait que dans notre système de répartition, les actifs payent chaque année les retraites de cette année-là pour les retraités. Est-ce, au contraire, le développement de fortes inégalités entre les jeunes, les âges intermédiaires et les retraités ? Ou est-ce le début d'assurances privées, capitalisées, gérées individuellement en fonction de son propre cycle de vie, mais sans relation entre les classes d'âge? Donc, tous les débats sur les retraites, que ce soit sur le niveau des pensions, le niveau des cotisations, que ce soit sur l'âge de la retraite, que ce soit sur la modalité de l'indexation, que ce soit sur le rapport répartition-capitalisation, sont en fait des débats sur ce qu'on veut faire entre les rapports des âges et des générations dans notre société, et aussi, de façon plus concrète, sur les efforts financiers que chaque âge doit réaliser pour fortifier le système de répartition. Et donc, le débat de fond, qui a pris le nom ces dernières années, le débat de fond sur l'équité entre les générations. Donc, risque vieillesse et ses problèmes de dynamique des âges, risque vieillesse aussi et le parcours des âges. À l'origine, la définition du risque vieillesse était très claire et très simple. C'était la possibilité d'avoir un revenu de remplacement au moment où, pour des raisons liées à l'âge, à la vieillesse, vous ne pouviez plus travailler. Or, maintenant, nous sommes dans une situation complètement différente. La définition de la retraite a complètement changé, puisque maintenant, elle va, comme je le disais, pratiquement de 50 à 90 ans, si on s'occupe de la fin réelle de la vie professionnelle. Quand, en fait, la retraite est de plus en plus liée à des problèmes d'emploi et pas à des problèmes de handicap liés à la vieillesse, c'est tout à fait clair et important ces dernières décennies, et quand il y a de plus en plus dissociation entre le vieillissement professionnel dans les entreprises, le vieillissement social qui est l'obtention d'une retraite, et puis le vieillissement biologique qui est de plus en plus tardif. Donc on voit bien que le risque vieillesse maintenant, il a à gérer des risques différents. Le risque fin de carrière, le risque temps libre et le risque dépendance. Et donc là, nous avons un point de départ extrêmement compliqué pour la gestion de cette retraite, puisqu'elle englobe maintenant beaucoup d'autres choses que la simple temps libre quelques années en fin de parcours professionnel quand la santé ne permet plus de travailler. Deuxièmement, le risque vieillesse a été transformé parce que l'image de la vieillesse en quelques décennies, l'image de la retraite s'est complètement transformée. Pendant longtemps, la retraite a signifié retrait, vieillesse, repos, maladie. Alors que maintenant, elle est vécue par la très grande majorité des personnes comme le début d'une nouvelle étape de la vie, longue, en bonne santé, avec des revenus suffisants et un temps libre prolongé et sans subordination salariale, où on est autonome. Et le défi, c'est être âgé sans être vieux. Même si l'expérience, en réalité, nous montre que passer rapidement d'une vie professionnelle à plein temps à une retraite de temps libre à plein temps, c'est un problème, une reconversion qui est plus compliquée qu'on ne le pense souvent quand on est en fin de carrière et qu'on ne l'a pas encore vécu. Alors, à partir de ces constatations, qu'est-ce qu'on peut envisager comme scénario pour l'avenir ? Irons-nous vers des carrières, au fond, de plus en plus concentrées, avec des cotisations sociales, donc, de plus en plus élevées, avec des retraites longues, mais avec pensions faibles et des difficultés d'insertion sociale ? Ou bien, deuxième scénario, irons-nous vers des carrières rallongées, avec des cotisations sociales moins élevées, des retraites plus courtes, des pensions théoriquement plus fortes, mais liées au fait des aléas de l'emploi, du chômage et des carrières ? Ou est-ce que nous n'avons pas à inventer autre chose que ces deux façons traditionnelles de réfléchir sur les retraites de demain ? Bon. Troisième point que je voudrais développer, c'est âge et vie familiale. On a souvent dit que la famille était le lieu ou l'institution qui articulait les différences de sexe et les différences de génération. Et ça, c'est vrai, c'est le lieu privilégié où s'articulent les rapports entre les âges, entre les parents et les enfants, et puis, au moins tout autant, entre les différentes générations qui coexistent dans la famille. Donc je vais insister uniquement sur ce dernier point, les relations entre les différentes générations dans la famille étendue, comme on l'appelle. Pendant longtemps, à la suite de nombreux travaux de Durkheim, de Parsons, etc., on a pensé que la famille moderne serait de plus en plus nucléaire, c'est-à-dire seulement uniquement les parents et les enfants. Et de nombreuses études récentes ont montré, au contraire, que la famille étendue avait toujours un rôle important dans les relations entre les âges et les générations. Et c'est en ce sens-là qu'elle a donné lieu d'abord à de nombreuses études, que je vais présenter rapidement, et en même temps de débats importants sur les solidarités familiales et la crise de la famille. Donc, dans les familles à trois générations existantes, c'est-à-dire donc grands-parents, parents, petits-enfants, ces études ont insisté sur, là je vais très vite parce que le temps passe, je crois, d'une part l'importance toujours plus grande qu'on avait cru il y a quelques décennies, l'importance des liens relationnels et affectifs, fréquence des contacts, échanges, loisirs passés en commun, etc. Deuxièmement, importance des transferts en nature et en temps, c'est-à-dire les échanges de services, la garde des petits-enfants, les soins aux parents âgés, etc., et les transferts financiers inter-âges, qui sont aux modalités très diverses, qui peuvent se répartir tout au long du cycle de vie. Mais ceux-ci sont importants, car on a pu en faire le bilan, elles tournent autour actuellement de 125 milliards par an, et dont 100 milliards qui descendent des ascendants vers les descendants. Et je dis ça sans compter les héritages et les donations qui représentent à elles seules 200 milliards par an de dons descendants des personnes âgées vers les plus jeunes. Et les jeunes générations de moins de 40 ans cumulent l'essentiel des aides, celles de leurs parents et celles de leurs grands-parents. Deuxième point qui a été bien mis en valeur par ces études, c'est l'importance de ce qu'on a appelé dans ces études la génération pivot, c'est-à-dire cette génération intermédiaire entre la génération des jeunes et celle des gens plus âgés. Donc c'est les gens autour de la cinquantaine, 50-60 ans, ce sont surtout les femmes qui sont visées en l'occurrence par là, dans la mesure où ce sont elles, cette génération pivot, et spécialement les femmes, qui fournissent le plus d'aide et de services et doivent arbitrer quotidiennement entre les différentes personnes auxquelles elles peuvent apporter ces aides et en même temps arbitrer entre les différentes aides qu'elles ont à apporter. Bon, là, j'ai des chiffres, mais je ne vais pas trop les donner. Mais de fait, on s'aperçoit que c'est très important et par rapport à mes collègues qui insistent beaucoup sur cette génération pivot, souvent en regardant les charges de ces personnes de la cinquantaine, et spécialement des femmes, je me dis que cette génération pivot, c'est souvent au moins autant une génération sandwich qu'une génération pivot. De ces remarques sur ces études, on peut retirer un certain nombre de constatations. D'une part, c'est qu'on assiste depuis quelques décennies à une inversion historique importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore 30 ans, c'était les actifs, les adultes, les enfants qui aidaient les personnes âgées qui avaient des retraites très faibles ou qui n'en avaient pas et qui avaient donc besoin de l'aide familiale des plus jeunes pour vivre. Alors que maintenant, nous voyons que c'est le mouvement inverse, les chiffres que j'ai donnés le montrent bien, qui se passe dans nos sociétés. Autre conséquence aussi, c'est que toutes ces solidarités familiales montrent bien tout ce qu'il y a de stéréotypé aussi dans ce qu'on dit souvent sur la fin des solidarités familiales ou sur la crise de la famille. C'est aussi des éléments intéressants contre l'idée qu'on entend souvent que le développement des solidarités publiques tue les solidarités familiales. Alors qu'on voit actuellement que des solidarités publiques fortes par les retraites n'empêchent pas du tout les solidarités familiales. Et qu'en réalité, quand on parle de la crise de la famille et qu'on regarde concrètement ce qui se passe, on voit que c'est sur la famille que finalement retombe la plupart des problèmes de société que la société ne sait plus gérer, gérer. Ça veut dire les problèmes de l'emploi, les problèmes de l'école, les problèmes de la protection sociale, les problèmes de l'exclusion des jeunes, de la dépendance des personnes âgées, etc. Donc on voit bien que la famille, elle a un côté amortisseur de crise, et en même temps, on peut dire la famille providence. Je crois qu'il faut quand même insister sur les limites de ces solidarités familiales et que peut-être un certain nombre d'études qui ont insisté sur les solidarités n'ont pas assez mis en valeur. En réalité, quand on situe ça par rapport à l'ensemble des besoins, on s'aperçoit qu'elles sont quand même limitées. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a nombreux individus qui n'ont pas de famille ou qui ont de la famille mais qui n'ont aucun lien avec eux, que 50% des gens qui ont autour de la cinquantaine n'appartiennent pas à une famille de trois générations, hein, donc c'est quand même un chiffre important, que 135 milliards de transferts, c'est important, mais que ce n'est rien par rapport aux 950 milliards des retraites ou à tous les transferts qui se font par l'assurance maladie. Que les échanges sont importants, mais qu'ils ne suffisent certainement pas à répondre à tous les besoins. Et qu'en plus, il faudrait s'interroger sur ces solidarités. Car est-ce qu'elles sont spontanées ou est-ce qu'elles sont contraintes ? Et on sait très bien qu'il y a toutes sortes d'obligations morales et de culpabilité qui font que souvent, ces solidarités-là, elles sont en réalité plus contraintes que spontanées. Et puis deux choses encore sur les limites, c'est-à-dire que ces solidarités, elles sont extrêmement inégalitaires, c'est-à-dire elles ont des effets inégalitaires selon les différents groupes sociaux, selon les différentes familles. Il y a ceux qui ont le moins et qui auraient besoin du plus. En fait, ils obtiennent le moins parce qu'ils sont dans les familles qui ont le moins à donner. Limite aussi parce que, comme je l'ai dit, ces transferts descendants, qui sont les plus importants, ils sont liés à l'existence de retraites d'un bon niveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si les retraites vont diminuer de niveau, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus ces solidarités entre les générations? Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, en tout cas, moi, je me la pose, même si beaucoup ne se la posent pas, est-ce que c'est le but des retraites de faire qu'elles aident les jeunes? Parce qu'en réalité, c'est évidemment très bien dans chaque famille, mais si vous le prenez globalement, ce sont des politiques de la jeunesse qui sont extrêmement inégalitaires. Et ce n'est pas pour rien qu'actuellement, un certain nombre se posent la question de créer un risque jeunesse. Mais l'interrogation centrale sur ces limites, je crois, des solidarités familiales, elles tiennent, il faut le dire en deux mots, à l'évolution de la famille. Est-ce que ces familles vont être de plus en plus éclatées, de plus en plus individualisées, avec des relations entre les âges qui vont tendre à disparaître, ou bien est-ce que ça va être des familles en réseau qui inventent de nouvelles relations entre les générations? Ce qu'on constate de plus en plus, c'est que la succession régulière des générations et la place des âges, elle est de plus en plus dans les familles brouillée, mouvante, mal définie, et ceci pour toutes sortes de raisons, par le développement de familles diversifiées, recomposées, monoparentales, etc., par des itinéraires familiaux discontinus pour beaucoup, par la fréquence accrue des ruptures d'union suivies de nouveaux compagnonnages, par les incertitudes de cohabitation qui sont à durée très variable, si bien qu'on se retrouve avec des situations pour les rapports des âges et des générations qui sont tout à fait nouvelles par rapport à ce qui se passait il y a quelques décennies. Les âges de neveux et de nièces qui se rapprochent de celui des tantes et des oncles et qui parfois s'entrecroisent, par des petits-enfants qui succèdent plus ou moins rapidement à des enfants tardifs, ou la nouvelle belle-fille qui a l'âge des premiers petits-enfants d'une mère, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une succession des âges et des générations qui est de plus en plus mouvante. Et en plus, dans ces nouvelles constellations familiales, on peut les appeler comme ça, on l'a souvent montré, les relations deviennent de plus en plus affectives, choisies, électives, donc elles sont mobiles, temporaires et sélectives. Quelqu'un a dit, par exemple, les critères d'âge et de rang dans la famille ne définissent plus qu'approximativement l'ordre et la nature des rapports entre les personnes et encore moins les rapports d'autorité et ceux d'affinité. Donc, finalement, les relations d'âge liées à la chronologie, à l'origine biologique, au statut, sont remis en question et de moins en moins pertinents. Et si bien qu'on, comme on l'a dit souvent, la famille tend à devenir de plus en plus la somme d'individus, au fond, comme on l'a dit, une petite démocratie, où âge et génération sont minimisés, mais au moment où, dans d'autres secteurs de la société, les âges sont extrêmement rigides. J'en ai parlé dans les entreprises, dans les politiques sociales, comme la retraite, c'est évident, ou dans l'école. Donc on voit bien, ce que je disais au départ, comment il y a là toute une diversification et qui est différente selon les secteurs pour ce qui concerne les âges et les générations. Mon dernier point, ce sera âge et période critique. Donc, ce que j'ai dit, c'est-à-dire sur la longévité, la vie professionnelle, la vie familiale, bouleverse donc l'ordre ancien des âges, c'est-à-dire le cycle de vie n'est plus organisé autour de ces trois âges comme on l'a connu pendant longtemps, jeunesse, adulte, vieillesse, avec chacun qui avait une vocation spécifique. La jeunesse, c'était la formation, puis après ça, c'était la production, puis après ça, c'était le repos. Et tout cela s'enchaînait sans transition. Ce cycle de vie des Trente Glorieuses, il était en même temps très adultocentrique, c'est-à-dire qu'il était centré sur on formait quelqu'un pour être adulte et produire. Et on arrêtait d'être adulte quand on ne pouvait plus travailler. Donc, et il avait il s'était centré sur un certain nombre de crises qui étaient, d'une part, la crise de l'adolescence, qui était abordée de façon assez psychologique, et à l'autre bout, c'était essentiellement pour les hommes les crises de la retraite et pour les femmes les crises de la ménopause et du nid vide. Le nid vide, c'était le moment où les enfants partent de la famille d'origine. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Je voudrais montrer et soutenir que, par rapport à ce schéma des Trente Glorieuses, nous avons trois périodes critiques dans l'existence qui sont nouvelles et qui ne ressemblent pas à ce qui existait auparavant et qui remettent en question toutes sortes d'idées sur les âges qu'on les a connus, mais aussi sur la maturité, le vieillissement, l'individualisme et toutes sortes de choses. Premier point, première période critique, c'est cette nouvelle jeunesse que j'appellerais les jeunes adultes. Donc elle est caractérisée, je l'ai dit déjà, par des fortes inégalités par rapport aux autres en termes d'emploi, en termes de salaire et en termes de protection sociale. Mais elle est caractérisée aussi par d'autres choses, c'est-à-dire qu'elle a une durée de moins en moins claire. J'ai dit que dans les années 60, à 24 ans, toutes les jeunes avaient quitté la famille, avaient un emploi, étaient mariées. Mais vous voyez que tout, il n'en est plus ainsi, et que la jeunesse se prolonge sur jusqu'à 25, 28 ans, quelquefois 30 ans. Et que cette période est caractérisée par un certain nombre de choses qui sont nouvelles, c'est-à-dire la mobilité, la flexibilité, ainsi que de nombreux allers-retours entre les activités diverses, caractérisée par l'allongement des études, par un taux d'activité faible, un chômage relativement élevé, une précarité professionnelle importante, et aussi par la prolongation de la vie chez les parents après les études et le report de la vie de couple et de naissance d'un enfant. Donc, l'ensemble de cette jeunesse interminable, comme on a dit, et elle est vécue de façon évidemment très différente, plus ou moins positive ou plus ou moins négative, selon les uns et les autres. Cette jeunesse nous fait insister sur une caractéristique des âges à l'heure actuelle, c'est que la tendance pour la jeunesse, comme pour tous les âges, est de ne plus se définir par des seuils précis qui marquent le passage d'un âge à un autre, comme 65 ans la retraite ou comme 24 ans pour les jeunes dont je parlais tout à l'heure. En fait, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins dans l'existence de ruptures nettes, qu'elles sont remplacées par des processus, des trajectoires plus longues, des modifications progressives, des activités réversibles. Donc tout se passe comme si, dans notre société actuelle, toutes les ruptures brutales étaient perçues comme seulement négatives. C'est-à-dire, on parle de la retraite couperet, de la retraite guillotine, alors qu'à d'autres périodes, il y a un certain temps, ces ruptures brutales étaient considérées et ont été vécues comme protectrices pour les individus. Et on voit bien un changement déjà dans la façon de se situer par rapport à ce genre de problème. Quant aux interprétations sur cette jeunesse, les faits que j'ai dit, ils sont tout à fait clairs pour établis pour l'ensemble de la jeunesse actuellement en France. Mais les interprétations sont différentes. Il y en a en gros trois. Celle qui consiste à dire, au fond, cette nouvelle jeunesse, c'est simplement un retard des événements par rapport à ce qui se passait avant. C'est-à-dire, on part plus tard de la famille, on se marie plus tard, on a le premier enfant plus tard. Bon. Il y a une autre explication qui consiste à dire, c'est une période de transition. Alors, une période de transition, c'est en partie vrai, parce que c'est une situation hybride où ces jeunes adultes ont à la fois des caractéristiques de l'adolescence et en même temps déjà des caractéristiques de la vie adulte. Ceci dit, je crois que ces deux explications ne sont pas assez suffisantes, ni explicatives, et qu'il faut vraiment dire que nous avons là l'émergence d'un nouvel âge très caractéristique de notre société. Pourquoi nouvel âge ? Parce qu'en fait, ça touche l'ensemble des dimensions de l'existence des jeunes, pas simplement l'emploi, mais l'école, l'emploi, la famille, les loisirs, etc., que le contenu de ces différentes activités lui-même a changé, ainsi que leur succession, l'ordre n'est plus le même, et que les modalités de socialisation et de processus identitaires sont différents tout à fait de ceux de la crise d'adolescence dont on parlait il y a 30 ou 40 ans. Et ce nouvel âge, si on veut l'expliquer, bien sûr, on ne peut que constater qu'il est lié à deux choses. D'une part, l'évolution du capitalisme actuel dans lequel nous sommes et le développement de l'individualisme. Alors, quand je dis développement du capitalisme, c'est un terme général, mais j'ai expliqué déjà des choses par rapport à l'emploi. Et quand on étudie les entreprises, comment elles fonctionnent, on comprend bien pourquoi il y a ces difficultés à l'embauche des jeunes. Bon. Et deuxièmement, développement de l'individualisme, parce que c'est le deuxième phénomène, c'est un individualisme actuel, contemporain, qui valorise les choix personnels et concurrentiels, la mobilité et le cumul d'expériences, les valeurs du travail et de la famille, mais qui est critique par rapport aux institutions, c'est-à-dire à l'entreprise et au mariage, et puis qui est sensible à de nouveaux équilibres, on le voit ça très souvent chez les jeunes, entre travail et non-travail. Donc, je vois cette émergence du nouvel âge des jeunes comme vraiment, c'est déjà la société de demain, hein, avec. Et pourquoi ? Parce qu'en France, la flexibilité, à la différence d'autres pays, elle se met en place d'abord et avant tout par les jeunes et par les anciens, comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, n'est-ce pas ? Donc, en ce sens-là, je crois que l'interprétation la plus forte pour comprendre la situation, c'est une nouvelle jeunesse, c'est-à-dire de jeunes adultes maintenant et pas simplement une post-adolescence continuée. Et ma deuxième période critique que je voudrais mettre en valeur, c'est celle que j'appelle le milieu de la vie. Et là aussi, c'est un nouvel âge. Un nouvel âge donc qui recouvre la fin de la vie professionnelle et le début de la retraite. Donc, en gros, une période qui va entre 50 et 65 ans, n'est-ce pas ? Et là, vous comprenez avec ce que j'ai dit qu'il ne s'agit plus seulement de la crise de la retraite telle qu'on en parlait il y a 30 ou 40 ans, que ce n'est pas simplement le troisième âge des années 60, mais c'est un phénomène récent qui est lié d'abord aux réformes de la retraite, hein, avec l'allongement de la durée des cotisations pour une retraite à taux plein, une diminution du niveau des pensions, le début des retraites progressives, et puis aussi, surtout, au développement des pré-retraites et des cessations anticipées d'activité de l'emploi pendant une décennie, la décennie des fins de carrière, en gros, autour de 50-60 ans, même si quelquefois ça peut même commencer avant. Et en plus, une période critique d'autant plus forte que c'est l'âge auquel arrive maintenant la génération nombreuse du baby-boom, donc qui va, de fait, se trouver dans cette situation du milieu de la vie. Alors, qui est caractérisé par une flexibilité plus grande sur une quinzaine d'années, avec des statuts, des horaires, des emplois divers, avec aussi toutes sortes d'activités non salariées et hybrides. Au même moment, c'est en ce sens-là que c'est un nouvel âge, il y a un ensemble de dimensions de l'existence qui se transforment. Alors, j'ai parlé un peu de la génération pivot, mais c'est aussi transformation dans les couples, dans la sexualité. C'est la période des héritages, des veuvages aussi. C'est les problèmes de santé, de début de vieillissement. Donc, un âge, là aussi, comme pour les jeunes, de remaniement identitaire, et d'autant plus important que là aussi, c'est nouveau. Et donc, il y a chacun individuellement ou avec d'autres, à inventer des nouveaux comportements et des nouveaux modes de vie. Donc un âge d'adulte âgé, situé au carrefour du vieillissement, comme a dit une de mes collègues, et qui commence à intéresser les psychologues français, mais c'est nouveau, alors que c'est une étape de la vie très bien connue dans certains pays, comme les États-Unis. Et dernier point sur ce milieu de la vie, il a donné lieu à de nombreuses interprétations, comme pour la jeunesse, est souvent parallèle à la jeunesse, c'est-à-dire qu'on a dit c'est une transition. Mais une transition, là aussi, on ne dit rien de précis. Transition, ça se ramène à dire qu'on se refuse à analyser la nouveauté, on explique par le passé. Et deuxièmement, on a dit que c'était une anticipation de la retraite, de même qu'on avait dit que pour les jeunes, c'était le retard d'un certain nombre de phénomènes. Tout cela est vrai, mais je crois que ce n'est pas suffisant, car là encore, tout ceci est lié à l'évolution du marché du travail et de la protection sociale d'une part, et par ailleurs, là aussi, au développement de au développement de l'individualisme, sur lequel je ne développe pas parce qu'on me fait signe que c'est bientôt. J'aurais voulu parler d'une troisième période critique, mais je ne le ferai pas puisque mon temps va être donné, ce qui est le grand âge. Et je crois que c'est très important parce que, bon, je ne dis qu'une chose alors parce qu'il faut que je me tienne à l'horaire, c'est que justement, on a tendance ces dernières années ou décennies à ne parler que du troisième âge, mais je crois que le quatrième âge, à la fois pour les individus, pour la société, pour la protection sociale, est un des gros problèmes actuellement, qu'il va augmenter. J'ai parlé de l'augmentation de la longévité et des problèmes, et je crois que c'est important, et qu'actuellement, nous connaissons peu de choses sur le grand âge, et quand on s'intéresse au grand âge, on ne le prend que par le biais de la santé. Et ça, je pense que c'est évidemment un phénomène capital, mais en réalité, qu'il n'est pas suffisant pour aborder l'ensemble des problèmes de mode de vie, des problèmes psychosociaux auxquels sont confrontés d'abord les gens du grand âge et ensuite les gens qui sont autour de la famille. Bref, avec ces trois périodes critiques, on comprend pourquoi un certain nombre de réflexions se sont mis à réfléchir sur qu'est-ce que devient la notion d'adulte et de maturité dans notre société. Et là, je dirais simplement sous forme de question, peut-on encore parler, dans une société en changement rapide comme la nôtre, permanent, d'une maturité qui a été définie pendant longtemps comme le résultat de la maturation de l'adolescence, c'est-à-dire un état psychologiquement et socialement stable? Je crois que la notion de maturité, elle aussi, est remise en question. Alors, pour finir, je voudrais simplement dire la chose suivante. Donc, nous avons parlé, essayé de clarifier ce brouillage des âges. Nous ne sommes plus du tout dans la situation des Trente Glorieuses. Nous voyons qu'il y a une très grande diversité et que tout ceci, ce sont des mutations qui sont en cours et qui ne sont pas univoques, qui sont différentes selon les secteurs. Je voudrais, à partir de ça, m'interroger sur l'avenir et montrer que, très rapidement, il y a trois scénarios possibles devant nous. Premièrement, le scénario, ce que j'appellerais des 30 glorieuses un peu transformées, c'est-à-dire scénario où de plus en plus nous aurons affaire à des âges fixes. Alors, ça n'est pas complètement utopique parce que nous avons la spécialité en France de faire que toutes les politiques sociales, publiques ou privées, sont liées à l'âge. Je l'ai dit pour l'emploi, je l'ai dit pour la retraite, on l'a vu récemment pour la prestation dépendance qui est réservée uniquement aux âgés. Donc, cette tendance est très forte et rien ne dit qu'elle changera rapidement. Deuxième scénario, c'est l'inverse de celui-ci, c'est est-ce que nous n'allons pas vers une société sans âge et qui s'appuie sur les tendances fortes dans notre société à l'hyper-individualisme et à l'ultralibéralisme, c'est-à-dire une société sans âge, ça veut dire où les rythmes collectifs et institutionnalisés tendent à disparaître et où l'âge devient une affaire purement privée, n'est-ce pas, et donc secondaire. Et ceci, on le voit bien déjà dans tout le domaine social, c'est la flexibilité partout. Chacun a à choisir ses propres décisions, à faire ses choix, indépendamment de repères collectifs des âges. Deuxième tendance qui va dans la même ligne, d'une société sans âge, ce sont tous les progrès de la biologie, de la médecine et des médicaments qui permettent progressivement de maîtriser, au moins en partie, des problèmes d'âge et de vieillissement, des problèmes de procréation et liés à la mort. Et donc, on voit bien comment il y a des tendances très fortes à supprimer les grands cadrages par âge qui, jusqu'à maintenant, ont toujours été nécessaires dans toute société pour, comme aide aux individus comme réducteur d'incertitude et comme réducteur d'inégalité. Et puis, dernier scénario, c'est là-dessus que je me terminerai, c'est le scénario dont j'ai dit un mot au départ, c'est-à-dire que soutiennent beaucoup, c'est-à-dire que nous allons vers une société qui sera caractérisée par le conflit des âges et des générations. Et certains disant, sera tellement central qu'il remplacera le conflit des groupes sociaux qu'on a connus pendant longtemps, dans le siècle dernier. Alors, ici, il faut bien dire qu'il y a des inégalités extrêmement fortes entre les différents âges. J'en ai montré un certain nombre, et spécialement entre les jeunes et les autres. Et certains même s'inquiètent non seulement du vieillissement de la population, mais du vieillissement du corps électoral. En faisant le raisonnement suivant, c'est que si le corps électoral vieillit beaucoup, est-ce que ça ne va pas faire qu'augmenter les inégalités face aux jeunes, puisque les personnes âgées, les retraités, seront en pouvoir, en possibilité d'imposer leurs propres intérêts. Ceci dit, pour faire court, j'ai montré d'ailleurs qu'une analyse détaillée montre qu'en fait, nous ne sommes pas du tout dans une perspective de conflit généralisé entre les générations pour toutes sortes de raisons que je ne développe pas ici. Mais d'abord et avant tout, parce que ce que cherche chacun actuellement, c'était très différent il y a 20 ou 30 ans, et c'est très fort pour les jeunes, c'est d'abord et avant tout s'intégrer dans la société. Ça n'est pas du tout la contester. Et donc, il peut y avoir des conflits, bien sûr, sur les retraites, sur tel mode d'emploi, mais ça n'est pas un conflit généralisé sur les âges et les générations. Par contre, ce qui est urgent, je pense, à l'heure actuelle, c'est, compte tenu de ces inégalités, de vraiment organiser ce que j'ai appelé un New Deal entre les âges et les générations pour essayer de réduire spécialement ces inégalités, et spécialement celles concernant les jeunes, dans la mesure où ces inégalités sont porteuses de handicap à la fois pour la cohésion sociale et pour le dynamisme de la société, on peut le montrer. Reste que ces inégalités, elles sont souvent liées à des problèmes de groupes sociaux et de sexe. Donc je terminerai en disant que certaines tendances montrent que nous allons de plus en plus vers une segmentation des âges et des cycles de vie en fonction des groupes sociaux. Et le schéma qu'on voit se dessiner, mais qui n'est pas fataliste, qui n'est pas obligé, on peut réagir contre, il est le suivant. Pour les couches sociales aisées, une formation longue, un plein emploi prenant, un couple à double carrière, une retraite de niveau élevé et remplie d'activités gratifiantes, et pendant que les tâches domestiques sont assurées par des employés de maison, une espérance de vie sans incapacité plus longue que celle des autres. Et puis, pour les couches les défavorisées, une formation initiale plus brève et chaotique, un emploi en dents de scie, des tâches ménagères prenantes, une retraite de faible niveau et faite d'inactivité subie, une longévité plus courte et en moins bonne santé. Donc voilà un peu ce que me suggère ce titre, Les nouveaux âges de la vie, à la fois en termes de parcours des âges et de dynamique des âges. Je crois qu'il y a un travail énorme de réflexion et de décision à prendre pour que nous essayions d'élaborer une société qui serait vraiment une société pour tous les âges. Merci.
Je dirais que je me place en dehors de toutes vos statistiques. Je suis complètement atypique, mais ma question c'est, est-ce que justement, il y a dans toutes ces statistiques, c'est vraiment trop général? Par exemple, le travail des femmes a commencé assez tard, et pas dans les années 50. Moi, je suis quelqu'un qui a travaillé dans les années 50. Mais je pense que, si vous voulez, vos statistiques, elles ne prennent pas en compte le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas eu de salaire supérieur à la sortie par rapport aux jeunes qui entraient, parce qu'ils n'étaient pas diplômés, tout simplement, ou bien qu'ils n'avaient pas fait carrière. Il y en a quand même beaucoup plus que vos statistiques n'ont l'air de le dire. Ensuite, la maturation adolescente, du fait que les femmes étaient un peu à l'écart de tout ça, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes de maturation chez les adolescents à mon époque. Et je pense que ce travail des femmes est là, et le problème de la contraception n'est pas pris du tout en compte dans tout ça. À part ça, je suis tout à fait sensible à la solidarité telle que vous l'avez présentée dans ces modèles fins. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même depuis très longtemps des gens qui n'ont pas de famille et qui ne bénéficient pas de cette solidarité depuis toujours. Et de même que ce que vous venez de dire en dernier sur des classes aisées qui finissent assez riches et des classes pauvres qui n'ont pas ces avantages, moi je crois que de mon époque ça existait aussi, et ça existait beaucoup. Il y avait beaucoup d'économiquement faibles qui arrivaient à l'âge de retraite sans rien et sans famille. qui finissait à l'hospice. Enfin, c'était tout ça que je voulais. Enfin, c'est plutôt des réflexions que des questions.
Merci, monsieur. Oui, vous avez cité la phrase de Bourdieu que les données biologiques sont manipulées par la société, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on ne tient pas trop compte, justement, de ces données biologiques ? Vous parliez de handicap, mais finalement, le handicap, c'est un concept qui correspond à quelque chose de plus ou moins vrai. Mais ce qu'on devrait faire, à mon sens, c'est évaluer les différentes capacités des gens, indépendamment, effectivement, de l'âge. Parce que, en se basant sur l'âge, finalement, les capacités sont très variables. De même, le niveau social, on ne devrait pas tenir compte, si on veut faire des réformes, on ne devrait pas tenir compte tellement du milieu social ou de l'âge, mais plutôt des performances biologiques des uns et des autres, de façon à orienter, ne serait-ce que pour orienter d'ailleurs, les gens vers telle ou telle activité.
Je voulais vous demander comment vous expliquez que le gouvernement qui avait demandé au commissariat général au plan l'élaboration d'un rapport sur le financement des retraites, le rapport Charpin, comment se fait-il qu'il ait eu autant de mal à passer puisqu'on a tout de suite demandé un contre-rapport qui s'est appelé le rapport Telade, qui semblait être, enfin, qui est d'un optimisme un petit peu effarant, et finalement on tourne autour du pot et visiblement nos politiques ont bien du mal à se décider par rapport à ça. Et d'autre part, le choix de l'âge de la retraite qui semble être un souhait assez généralisé, nos politiques n'aiment pas non plus le choix, ils aiment bien avoir affaire à des âges fixes, comme vous le disiez tout à l'heure.
J'ai trouvé assez sympathique ce que vous disiez sur le flux, disons, d'aide venant de générations plus âgées vers les plus jeunes, mais il m'a semblé qu'il y avait quelque chose que vous passiez sous silence, c'est cette tentation qui me paraît quand même assez fréquente de participation à des sectes, à des mouvements divers. Est-ce que vous avez une idée sur quantitativement ce que ça peut représenter, sur son évolution ?
Bon, alors, première, c'était madame, là, bon, mais ce n'était pas tellement une question, c'était de dire qu'on aurait pu développer beaucoup d'autres choses et de façon beaucoup plus précise pour insister sur la diversité des carrières ou des âges pour les individus, pour les groupes et pour les femmes, par exemple. J'avais pensé à un moment, mais j'ai coupé beaucoup de choses, faire, justement, on voit bien qu'on pourrait faire sur l'évolution du cycle de vie des femmes sur les 30 ou 40 dernières années, ce serait évidemment à soi tout seul un sujet. Bon, donc ça, je suis d'accord avec vous, mais j'avais essayé de le dire un peu au départ en disant que je ne pourrais pas rentrer dans le détail, que je prendrais des analyses plus globales. Bon, par rapport à monsieur à côté, alors vous avez au fond dit par rapport, autant que je me souviens, par rapport aux âges, il faudrait des tests d'aptitude et de capacité pour les individus. Alors je crois que ça c'est évidemment souhaitable en soi. Ma réaction à ça serait la suivante. De quoi parlez-vous exactement ? Si vous pensez que la politique des entreprises face aux jeunes et face aux salariés âgés est uniquement liée à leurs problèmes de compétences, là je pense que c'est totalement faux. Pourquoi ? Prenez les pré-retraites. Je maintiens, après des quantités d'études sur les entreprises, que le fait de mettre dehors des gens âgés n'est pas d'abord et avant tout parce que la productivité individuelle des gens âgés est plus faible. C'est au nom de toutes sortes d'autres problèmes beaucoup plus globaux. Ceci joue, et ceci joue dans certaines entreprises, comme par exemple l'automobile. Mais dans d'autres, c'est au nom de la compétitivité, c'est au nom des sureffectifs, c'est au nom de la réduction des coûts, c'est un problème de salaire plus que de compétences, etc. Donc, je ne crois pas qu'en réalité, beaucoup d'institutions, entre autres l'entreprise par exemple, soient gérées uniquement par la capacité des individus. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des tests de capacité, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'était votre question. Troisième question, c'était sur le problème...
Tola des
Charpins. Tola des Charpins, oui. Bon, alors là, oui, ça c'est une longue histoire, mais pour ne répondre que sur un point, de fait, vous avez raison, les analyses du rapport Charpin et de Tola étaient vraiment très différentes, les unes plus pessimistes et les autres plus négatives. Quand même, un des tollés qu'il y a eu face au rapport Charpin, c'était que la solution qu'il donnait, c'était de dire passons de 37 ans et demi à 40 ans de cotisation pour financer le système des retraites. Et dans son rapport, il n'y avait pas une ligne, ou exactement deux lignes, trois lignes, sur le problème des cessations anticipées d'activité et des pré-retraités. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire en même temps il faut rallonger la vie professionnelle pour avoir une retraite à taux plein et en même temps faire, dans beaucoup d'entreprises, des départs qui sont de plus en plus précoces. Parce que si on n'étudie pas ensemble ces deux problèmes, on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que le niveau, qu'on repoussera l'âge de la retraite, que massivement beaucoup de gens seront en pré-retraite de plus en plus tôt, et donc que le niveau des pensions sera diminué. Donc je crois que là, c'était quand même une des ambiguïtés très fortes du rapport Charpin. Alors, pour d'autres raisons, le rapport Charpin et le rapport Tolade étaient complètement opposés, enfin, très différents en tout cas, par rapport à l'analyse de la situation démographique et l'analyse économique. Mais ça, on ne va pas rentrer dedans. Par contre, je dirais qu'il y a un troisième rapport qui était intéressant, dont on ne parle pas assez, c'est le rapport de Dominique Taddei. Parce que justement, lui, il est un peu entre les deux, et il a essayé, puisque j'ai travaillé avec lui, là, je connais bien son texte, il a essayé de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème des retraites, mais en tenant compte du problème de l'emploi, du chômage, et spécialement du problème des pré-retraites. Donc c'était une tentative intéressante pour essayer de réfléchir à ce problème, qui est quand même un des gros problèmes fondamentaux de tout système des retraites. Je ne sais plus s'il y avait d'autres questions.
Il y avait une question sur les sectes. Je ne sais pas si...
Ah, mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ça, c'est pour les jeunes, pour les gens âgés ou pour...
Pour les gens de la quarantaine.
Bah, écoutez, je n'ai pas de lumière spéciale ou de chiffre spécial à vous donner sur les retraites. Ce qu'on voit, c'est, mais ça, tout le monde le sait, c'est-à-dire ce qu'on voit, c'est que, d'une part, il y a un affaiblissement de toutes les pratiques ou les croyances dans les grandes églises instituées fortes, et que par ailleurs, il y a un développement très fort, en France et dans beaucoup d'autres pays, de toutes sortes de mouvements qu'on appelle les sectes. Enfin, déjà le mot, on pourrait en discuter. Bon. Alors, est-ce que c'est plus, je ne sais pas, vous avez l'air de dire, pour les gens de 40 ans, etc. Moi, je ne suis pas sûr. Enfin, je ne sais pas.
Moi, je suis vraiment déconnecté. vous avez traité un sujet qui s'appelle l'influence de la vie publique sur les âges humains en France, alors que le sujet est les âges de la vie. La vie renferme les humains, les animaux, la terre. Donc la définition ne peut pas être en fonction de la vie publique, mais elle peut être en fonction de l'espace et le temps. Donc c'est une représentation de l'espace et le temps. Pour les animaux, à deux dimensions, les hommes humains à trois, les croyants et les joueurs d'échecs à quatre dimensions. Alors, je pense un petit peu que c'est un petit peu limité. Merci.
Donc trop réducteur,
voilà.
D'accord, monsieur.
Oui. Moi, je voudrais revenir sur la question du handicap. Monsieur a dit que c'était un concept. C'est complètement faux. Le handicap n'est pas un concept, c'est une réalité physique qui est parfois très malheureuse et douloureuse. La preuve en est d'ailleurs que ceux qui ont une invalidité, c'est comptabilisé comme annuité, n'en déplaise à monsieur. On n'a pas besoin de travailler quand on est invalide. Excusez-moi. Voilà. Deuxième chose que je veux dire, c'est une idée comme ça qui m'est passée par la tête. Pourquoi il n'y a que les femmes qui ont le droit de prendre des annuités en moins par tête de pipe qu'ils appellent les enfants ?
Pour des enfants ?
Ouais. Pourquoi les hommes n'ont-ils pas le droit eux aussi d'avoir un peu d'annuité ? Du temps en moins à travailler.
Je sais pas, qu'est-ce qu'il a question ?
Autre question, je vois là-haut, à gauche, s'il vous plaît. Et à droite, de l'autre côté, deux questions. Voilà, une et deux.
On va parler. Oui, votre exposé est magnifique, mais je suis là. Voilà. Et c'est étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire, que vous n'ayez pas évoqué l'issue de la vie, c'est-à-dire la mort. On y a tous droit, aussi bien le troisième, quatrième âge, mais aussi beaucoup de jeunes qui, pour des raisons, passent de l'autre côté. Dans de nombreux endroits, à Paris, endroits très diversifiés, il a été dit par des gens qui semblent compétents que la grosse majorité des gens appréhendent la mort. Ben, je m'inscris en faux contre cette affirmation. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils doivent un jour mourir et c'est pas pour autant que ça les angoisse. Ils trouvent tout à fait normal un jour de cesser de vivre. Je tenais à le dire comme je l'ai redit ailleurs dans notre milieu.
Tout à fait, on ne peut être que d'accord avec vous.
Oui, je suis là. Donc, moi, je voulais peut-être, je vais résumer en deux points. Donc, le problème des âges, ce que j'appelle les âges peut-être sacrifiés, c'est-à-dire, bon, j'ai trouvé effectivement toutes vos remarques très intéressantes, mais peut-être insuffisamment critique, peut-être sur certains points. C'est-à-dire les âges sacrifiés, c'est-à-dire poser même le problème de ce qu'on peut appeler la fonctionnalité qu'auraient certains âges, enfin qu'avaient certains âges et qu'elles n'ont plus, je pense. Maintenant, poser la question à quoi sert la jeunesse, à quoi sert la retraite. C'est effectivement, bon, vous l'avez évoqué, hein, ce problème, mais enfin, moins d'ailleurs sur la jeunesse. À quoi sert la jeunesse finalement? Parce que, par exemple, le problème aussi, donc je rebondis sur mon deuxième point, qui est le problème en fait de fixation rigide, donc d'âge limite pour telle et telle application de règles. Et je pense que là, par exemple, bon, il y a le problème effectivement de l'âge de la retraite, ça se pose, je sais pas, moi, il me semble que c'est fixer un âge rigide de la retraite aujourd'hui et se dire qu'on va le garder encore des siècles et des siècles, ça peut paraître effectivement quelque chose de rigide, je trouve. Quelque chose de rigide, complètement rigide. Et alors effectivement, peut-être que ça sauvegarde des droits et qu'il y a eu des combats pour avoir cette rigidité, mais qu'est-ce qu'elle signifie aujourd'hui sur le plan des droits de l'homme? Elle est peut-être plus négative que positive. Voilà. Et puis, deuxième point, bon, on peut regarder aussi à la fin de l'école, il y a des tas, effectivement, d'enfants qui sont astreints à une scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Alors, là aussi, on s'est battu, ça a quand même été imposé par la bureaucratie, mais enfin, disons qu'il y a quand même eu une bataille républicaine pour l'école publique. Bon, maintenant, dire forcer des gens qui ont déjà 14 ans, par exemple, qui sont en complète rupture, les forcer à rester encore 2 ans avec tous les problèmes, vous voyez ce que je veux dire? Bon.
Si la jeunesse se prolonge, est-ce que l'enfance se prolonge-t-elle? Et comment faire face justement à des enfants grands, disons-le. Et ça d'une part, et d'autre part, pourquoi la société, si justement en voyant que ces phénomènes arrivent, pourquoi on continue à faire barrage à des gens, notamment dans le milieu professionnel, à des gens qui ont 35 ans, 40 ans, qui commencent une carrière et qui sont complètement à qui on barre le passage, quoi. Ils n'ont plus le droit de commencer. Il faut qu'ils soient déjà casés.
Pardon, si je vous comprends bien, c'est le problème de l'entrée tardive dans le métier, dans la carrière.
Voilà. Ouais.
D'accord. Merci, monsieur. Ce sera la dernière.
Oui. Bonjour. La situation que vous avez décrite au cours de votre exposé démontre que l'homme et la femme sont des marchandises et leur exploitation est déterminée en fonction de leur âge. Ainsi, on assiste à une productivité intensive et à un parcours professionnel limité au bénéfice des exploiteurs. Considérant cette situation critique pour beaucoup de gens et l'appétit à jamais satisfait des capitalistes et des financiers, n'est-il pas temps de stopper, de mettre un terme à ces dérives du grand capital à travers une autre politique, une politique courageuse et audacieuse qui aura pour seul objectif central l'homme et le respect de son droit absolu au travail sans considération de son âge, pourvu qu'il soit valide et apte à occuper un emploi. Je vous remercie.
Bon, c'est... je suis d'accord. On ne peut qu'applaudir à cette, effectivement, à votre proposition, mais je vais demander à Xavier Collier de répondre aux autres questions.
Non, mais
questions
je vais répondre, pas répondre à vous, parce que je suis pour une, bien sûr, pour une société où tous les âges pourraient... Bon, mais plutôt rebondir sur la question de monsieur, là, parce que c'est quand même ça le problème dans lequel nous sommes affrontés dans la société actuelle, on peut le dire de façon générale, c'est-à-dire... On sait très bien qu'il faut plus de flexibilité et on sait en même temps qu'il y a toujours des sécurités nécessaires et que ce n'est pas vrai qu'aucune société ne fonctionne uniquement sur la juxtaposition de millions d'individus. Il y a des règles. Bon. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver des situations nouvelles qui ne soient pas la reproduction de la rigidité antérieure et qui ne soient pas la flexibilité totale dans laquelle c'est la jungle. Bon. Alors, Sur des points précis comme la retraite, parce que je pense qu'il faut mieux parler de choses précises que générales, on voit bien ce que ça veut dire. On peut dire, c'est contre les droits de l'homme et de l'individu d'avoir une retraite à âge fixe qui vous oblige de partir à tel moment. OK. Bon. L'autre solution consiste à dire, tout le monde n'a qu'à avoir des assurances privées, il pourra partir quand il voudra. Bon. Hein. Troisième solution, c'est de se dire, notre système de répartition a des avantages, mais il a des rigidités. Comment est-ce qu'on peut faire pour introduire à l'intérieur du système de répartition des choix d'avantages individuels? Ça, c'est tout à fait possible. Je prends un exemple que j'ai souvent pris, c'est-à-dire, nous sommes dans des sociétés où on a de plus en plus besoin de mobilité, de se recycler tout au long de l'existence. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité, sous certaines conditions, qu'on peut préciser, mais c'est assez facile à faire, de prendre à 35 ans, 40 ans, une année sabbatique qui serait payée par les caisses de retraite et qui vous obligerait évidemment à partir un an plus tard, quand vous arriverez en fin de carrière. Bon. Il y a toutes sortes de possibilités, et en plus avec la gestion informatique, etc., qui permettent de faire que même dans un système de répartition, on peut introduire des choix individuels et qui ne soient pas contradictoires avec des règles qui peuvent respecter un certain nombre d'égalités entre les différents groupes de la société. Alors on peut dire ça aussi bien pour la jeunesse. Hein. On a des exemples dans d'autres pays où c'est mieux organisé qu'en France pour l'alternance entre les périodes de formation, les périodes de travail en entreprise, les stages, le retour à la formation, etc. Bon. Donc là, il y a beaucoup de gens quand même en France qui réfléchissent là-dessus. Comment faire que, justement, par rapport aussi à ce que disait monsieur, il y ait davantage dans notre organisation sociale des possibilités données à chaque individu de faire son propre destin, son propre vie, mais en même temps en gardant un certain nombre de règles pour que ce ne soit pas la jungle universelle. Moi, je vais dire simplement un mot au besoin sur les entrées tardives, c'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que pendant, pour revenir toujours à ce modèle des Trente Glorieuses, en fait, là, le modèle était que les gens se formaient dans le système classique de formation, et puis après, les entreprises les embauchaient, et c'est à l'intérieur de l'entreprise que se faisait l'expérience du jeune. Tandis que maintenant, pour un tas de raisons qui tiennent au fonctionnement des entreprises, en réalité, on attend pour embaucher des gens qu'à la fois ils aient eu la formation et qu'ils aient eu toutes sortes d'expériences. Donc, on voit bien comment, et moi je crois que ça va durer, que même si on arrivait à une période de plein emploi, comme on dit, on gardera toujours, compte tenu du fonctionnement des entreprises, des périodes à la fois dans la jeunesse et dans l'âge âgé qui vont être des périodes difficiles à nous de faire qu'elles soient de moins en moins précaires et qu'elles soient de plus en plus des expériences fortes, riches, où il y a un cumul d'expériences et pas simplement des gens qui vivent au fil de l'eau parce qu'ils n'ont pas d'autres situations que la précarité qu'on leur donne. Alors on le voit déjà très bien, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit monsieur, c'est-à-dire j'ai laissé entrevoir à beaucoup d'endroits combien face aux décisions, disons, sociales prises par les entreprises, etc., toutes sortes d'individus avaient réagi. C'est la réaction des années 60 dans le troisième âge. C'est les réactions qu'on voit actuellement chez les pré-retraités, par exemple, où il y a quand même une ébullition absolument fantastique pour des gens qui sont souvent dans des situations compliquées d'emploi, mais qui sont en train d'inventer toutes sortes d'activités nouvelles. On pourrait en citer beaucoup, longuement. Hein. De même chez les jeunes. C'est vrai qu'il y a la galère de ceux qui désespérément n'arrivent pas à en sortir, mais il y a ceux, et il y a beaucoup d'exemples et d'études là-dessus, qui montrent comment, à travers même quelque chose qui apparaît comme une mobilité difficile à vivre, est un cumul d'expériences et comment, à partir de cela, des individus découvrent leur maturité et des compétences réelles, même si le schéma est complètement de fait différent de l'entrée dans la vie adulte de celui qu'on a connu il y a 30 ou 40 ans.